La dignité, vous connaissez ? C'est nous !
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Pendant plusieurs mois, des collectifs ou associations de femmes implantées dans différents quartiers populaires de Marseille se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques. Ces rencontres ont été initiées par Camiraca et Johanna Fidalgo pour la direction de la politique de la ville Métropole Marseille-Provence. Au cœur des échanges, les discriminations multiples et systémiques auxquelles les habitants et les habitantes de ces quartiers sont confrontés. Ces femmes luttent pour le droit au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, ou pour faire entendre la voix des habitantes et des habitants dans les politiques de rénovation urbaine. Elles disposent souvent de peu de moyens, alors même qu'elles pallient aux carences de l'État. Leur détermination constitue la ressource principale sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Au fil des rencontres, nous avons fait connaissance et nous leur avons proposé de faire le portrait de leur association, de leur collectif. Une manière de rendre hommage au travail colossal qu'elles accomplissent. Épisode 2, le collectif des femmes de la Castellane. Entretien avec Soad, Hayat, Fadela, Soumia, Taous, Shafia.
Moi, je m'appelle Hayat Rachef, je suis une habitante de la Castellane depuis 28 ans. Et donc, mes enfants ont grandi ici.
Alors, moi, c'est Shafia, ça fait 30 ans que j'habite à la Castellane.
Bonjour, je m'appelle Soraya. Je suis en France depuis 2012.
Je m'appelle Taous. Je l'habite ici à Marseille, 27 ans.
La baguette magique, c'est moi, c'est Sakina, c'est Fadela, c'est Soraya, c'est Fadela, c'est Souad, Taous, Fatia. C'est nous les vraies baguettes magiques.
Je m'appelle Fadila et je suis à la baguette magique depuis 2007, avant la création de journal. Avant, on était un groupe collectif, on était au centre social de la Castellane, on a rencontré Francesca là-bas. On faisait des activités avec les enfants et tout. Et
c'est là, c'est parti le journal 2022. On est toujours là avec toujours les mêmes femmes. Et on continue là.
On parle pour 8000 personnes. Pour moi, l'expérience de la baguette magique, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'on est capable pour faire les trucs. Ça m'a aidé pour apprendre la langue, pour comprendre les gens qui sont autour de moi. Et j'ai trouvé franchement que la cité, elle est riche. Il y a plein de cultures, il y a plein de gens, il y a plein de trucs qu'on peut apprendre dans la vie.
Est-ce que vous pouvez raconter comment est née la baguette magique ? Comment ça a commencé ?
C'était le centre social qui nous a réunis, toutes les femmes, là. Parce qu'on s'ennuyait, on était à la maison, on n'avait pas de parents. Nos parents, ils sont en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, n'importe. Les maris travaillent et nous, la journée, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tourner au quartier. On n'a pas de véhicule, on n'a pas... Et le centre social, ils nous font des ateliers l'après-midi, boire un café et discuter entre femmes. C'est là qu'on s'est rencontrés entre nous. Et voilà, après, on se propose qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là qu'on connaît Francesca.
Francesca, c'est, je ne sais pas comment on pourrait dire, la chef, la fondatrice de 3-2-1 et de la baguette magique. Voilà, qui nous a vraiment aidés, qui nous a vraiment aiguillés comment justement faire la baguette magique du début jusqu'à la fin. Les imprimeries, la distribution.
Et Francesca nous faisait des ateliers avec la matière du bois, de la terre. On touchait tout ça et ça nous a plu.
Et c'est à partir de là que ça a commencé à avoir l'idée de journal parce que dans ce groupe, on racontait plus les problèmes qu'on rencontrait dans la cité. La plupart des mamans qui étaient dans la cité, c'est des mamans qui sont venues de l'étranger. Donc c'était une façon pour nous de se rencontrer, de se partager la tristesse, le manque de pays, les problèmes qu'on rencontre avec les enfants à l'école. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de faire un journal, qu'on a appelé ensemble Baguette Magique.
C'est un journal qui retrace pas mal de petits récits de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voudrait qu'il se passe dans la cité et aux alentours.
Comment c'est venu le nom ?
Magiquement. Il n'y a pas d'autre mot à dire.
La La baguette, pour nous, c'est une façon de changer les choses. Avec le journal, on a exprimé et faire passer un message de ce qu'on fait dans la cité et de ce qu'on endure avec les problèmes de l'abandon de la cité. C'est très, très dur d'habiter dans une cité de plus de presque 8000 habitants. Et avec la rénovation qui a tout perturbé, le Covid qui est arrivé pour dégrader plus la situation. Mais nous, on est le groupe de la baguette, on est toujours là, on combat, on ne laisse pas, on ne lâche pas. On fait toujours passer ce message, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la discrimination, que ce soit sur la pauvreté ou la santé. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de médecins dans la cité, on a un seul médecin pour 8000 habitants. Et c'est vraiment une catastrophe, parce que les personnes, quand elles appellent le SAMU, ils ne viennent pas, ils appellent les pompiers, ils ne viennent pas dans la cité. Il n'y a pas de médecin de garde, un seul médecin dans la journée qui ne peut pas prendre 8000 habitants. Donc la santé aussi, elle a dégradé. Et voilà, mais nous, on est là, on est motivés, on ne lâche pas. Parce que c'est notre cité, on l'aime, on ne peut pas abandonner comme ça.
On vit le truc que les gens ne peuvent pas le voir. Et avec tous les médias qu'ils disent aussi, ils ne disent pas la vérité, ils rajoutent des trucs, ils sont en train d'oublier le plus important, parce qu'il y a 10 humains qui vivent dedans. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de l'éducation pour les enfants. L'école est en train de dégrader. Le collège plus. Je ne dis pas que les profs ne sont pas bien. Ils sont des bons profs, mais ils sont en train de lâcher. Tous les problèmes qu'il y a ici au quartier, toute la pauvreté qu'il y a dans le quartier, ça retourne à l'école. Et notre enfant est en train de perdre dans tout ça. On est en village là, on est plus qu'un grand village ici. Tout le monde y connaît tout le monde presque. Il y a toutes les nationalités ici. On ne dit pas ça c'est musulman, ça c'est un catholique, ça c'est un juif, tout c'est pareil ici. Là, tu es mon voisin, je m'en fous quelle région tu as, notre enfant aussi, ils jouent ensemble. Il n'y a pas toi tu es un black ou toi tu es un blanc, ou toi tu es un français ou toi tu es un gitan. Non, on n'a pas ça. Pour ça, on a fait ça nous, pour dire non. Il y a des familles, il y a des gens qui sont en train de se battre pour leurs enfants. Beaucoup d'enfants ici, beaucoup de jeunes, ils sont dans l'abandon. Et ça, c'est pour le travail, pour les stages. Et... ou tu travailles à Carrefour, ou tu travailles à caissière, ou tu travailles dans le ménage. C'est ça. Tu n'as pas le droit de notre travail, tu n'as pas le droit de réclamer. Nous, avec le baguette, on dit non. On est là. On a tout ce qu'il faut. On a des enfants diplômés, des enfants qui sont partis aux médecines. On a plein de trucs. Ils cherchent tout le temps que... un peu de pouce et un peu de regard et un peu de soin.
Quand vous faites la baguette magique, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous vous y prenez? Comment vous commencez? Comment vous choisissez les sujets? Après, comment vous travaillez pour faire les articles? Enfin, tout le processus, quoi.
Le travail de la baguette magique, c'est toute l'année. On n'achète rien. C'est nous qu'on fabrique le tampon, c'est nous qu'on fait dessiner.
On fabrique nous-mêmes notre maquette, on fait nos peintures. Après, tout le monde sait, comme Tao, ça ne sait pas beaucoup écrire, ça ne sait pas beaucoup s'exprimer. Donc, il y a quelqu'un qui vient, elle parle, l'autre, il écrit.
Moi, je fais des poèmes. C'est des trucs qui sortent de mon cœur.
Vous les dites en quelle langue?
Moi, je dis en arabe et Hayat al-Mahdi en français. On trouve tout le temps les solutions pour... trouver la... On aide entre nous. Franchement, c'est la solidarité. C'est ça. Tout le monde, pareil.
Les articles, on les choisit. Ce qu'on veut faire nous-mêmes, c'est notre histoire. Comme moi, je suis dans les souvenirs. Et voilà, après chacun, comme Farida, quand elle a écrit sa lettre pour le prof en Algérie, quand elle était au Bled. Elle a fait la lettre aussi d'avion. Parce que le billet d'avion, il coûtait trop cher. Qu'on ne pouvait pas voyager, on est à l'Algérie à notre guise. Donc là, elle a écrit une lettre au ministre, du transport, pour leur dire, voilà, baissez-nous un petit peu le prix, vous nous faites trop cher, nous on ne peut pas voyager avec nos enfants et tout ça, on veut partir voir notre pays quand même.
Ça c'est notre groupe de femmes, personne n'y touche. En fait, c'est à nous, parce que quand on est là, je ne sais pas s'il faut que je le dise, on parle certaines choses qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un corps étranger, c'est-à-dire un homme dedans. Donc, ça nous arrive de balancer un petit mot comme ci, un petit mot comme ça, mais c'est sans arrière-pensée aucune, mais c'est pour sortir ce qu'on a. C'est-à-dire, quand on vient ici, c'est... Oui. Ça y est, je respire bien. Après, je rentre à la maison, je sais que je vais encore voir le mari, les enfants, la maison, le ménage. Alors que là, je viens, je me défoule, je parle mal, je dis des choses. Mais sans arrière-pensée, c'est, au contraire, c'est parce que là, on est qu'entre femmes, on se comprend, on a toutes les mêmes soucis. Alors, on a envie de dire ce gros mot, eh bien, on le dit. Et je te le dis, et tu me le dis, et puis ça nous fait du bien. C'est bête, mais ça nous fait du bien. Voilà, c'est un apaisement pour nous, c'est un apaisement.
Moi, le jour que j'ai fait une formation à Saint-Jérôme, il y a des gens qui me regardent, que je suis venue de la Castellane. Après, ils me regardent comme quelqu'un qui est bizarre, quartier, qui est chaud et ça. J'ai dit, regarde-nous, on est dans ce quartier, mais on fait des choses. Je lui ai montré le journal, j'ai pris tous les numéros. Je lui ai dit, on fait tout ça. On fait les activités avec l'école, le théâtre au collège, on a fait la création de jeux. Je n'ai pas confiance de soi avant. Mais avec la baguette magique, maintenant je suis connue, tout le monde me connaît. J'ai trouvé un travail, j'ai fait ma formation, j'ai mon diplôme, j'ai fait un stage.
Ce qui m'est arrivé, c'est que grâce aux femmes de la baguette magique, elles m'ont aidée quand j'étais pas bien. Et elles m'ont aidée surtout pour le mariage de mon fils. Je ne remercierai jamais assez parce que faire un mariage en 3 jours, c'est exceptionnel. Et elles ont réussi à faire un mariage en 3 jours.
Alors comment elles ont fait ?
Je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles m'ont aidée dans la totalité. Avec leurs petits doigts de fée, c'est vraiment des doigts de baguette magique. Elles ont tout fait en 3 jours. D'un claquement de doigts, ouais.
En 2015, j'ai perdu mon mari et j'étais toute seule. C'est les filles qui viennent chaque soir, elles restent chez moi. C'est eux qui font le manger, les courses. J'ai quelque chose, un souci, le soir, j'appelle, tout il vient. Parce que j'ai personne ici, je suis toute seule. Premier jour, ma famille m'a dit rentre parce que tu es toute seule, tu ne restes pas toute seule. Les filles, ils ont parlé avec mon père. Mon père, il est venu. Ils ont venu, il dit laisse-la ici, on est avec elle. Il ne faut pas inquiéter pour elle. Baguette magique, elle a fait un groupe qui est, on dirait une famille, c'est des sœurs.
Aujourd'hui, ce groupe de 10, il est tout le temps là. Et ce lien-là qui a fait qu'aujourd'hui, on ne lâche pas. S'il n'y avait pas cette complicité et ce partage, on n'aurait pas cassé ces murs-là qu'ils étaient en train de construire autour de nous dans la cité, que ce soit sur la rénovation, le problème de la santé, le problème du chômage, le problème de la pauvreté, le manque de la famille, parce qu'il y avait quand même plus de 2 ans que les frontières sont fermées, que la plupart de nous, on n'arrive pas à aller voir nos familles. Et il y a dans le groupe qu'ils ont perdu leurs parents pendant le Covid, qu'elle perd un parent, qu'elle ne peut pas y aller faire le deuil là-bas, l'enterrer. C'était très dur. C'est grâce à cette amitié, ce lien, ce partage, ces rencontres qu'on fait aujourd'hui dans le local et tout, c'est grâce à ça qu'on a pu passer cette période difficile et dire qu'on ne lâcherait pas parce que si on lâche, c'est nos enfants qui vont payer la facture. Les médias et les autres aussi ont donné une mauvaise image à la cité. Pour eux, nos enfants, ils ne méritent pas de faire des grandes études. Nos enfants, ça va être que dans des lycées professionnels, après à la fin, être comme elle a dit, caissière ou femme de ménage ou agent d'entretien ou agent de sécurité. Mais nos enfants, ils valent mieux que ça. Et c'est des enfants comme tous les autres. Pas parce qu'ils sont dans les quartiers nord qu'ils n'ont pas de capacité, qu'ils ne sont pas intelligents, que c'est des voyous. Non, nous, avec ce qu'on fait dans la baguette magique, c'est casser cette image qu'ils ont donnée de la cité. Parce qu'ils jugent trop nos enfants, ils nous jugent trop nous-mêmes. Même les mamans, ils les jugent parce qu'ils disent qu'elles sont avec les voyous, elles sont avec les réseaux.
C'est l'État qui a abandonné les quartiers. Ce n'est pas les habitants qui ont abandonné leurs enfants, c'est pas les gens qui sont de pouvoir, c'est eux qui ont abandonné les quartiers. Ils sont dit, ça, c'est des immigrants. Vivre dans un quartier comme ça, tout le truc qu'on le voit chaque jour, c'est difficile aussi pour un petit, pour suivre l'école, pour continuer.
8000 habitants, ils n'ont pas un grand stade. Il y a un petit stade de la Jougarelle, mais tout le monde n'a pas accès à ce stade. Il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'endroit où les mamans se retrouvent, où les personnes âgées qui sont bloquées dans leurs appartements, surtout avec ce Covid, elles sont bloquées à la maison, elles n'arrivent pas à sortir parce qu'il n'y a pas un endroit pour s'aérer, pour se rencontrer, pour se retrouver. Heureusement qu'on a ce local, heureusement qu'on a le centre social, des fois on se rencontre là-bas. Mais s'il n'y avait pas ça, nous aussi on va tomber dans la dépression comme tout le monde, que la plupart des personnes. Et avec ce journal, avec ces articles qu'on fait, c'est une façon de montrer que aujourd'hui, on ne lâche pas. On montre les problèmes, qu'on est là, qu'on a des enfants qui sont capables. qu'on veut casser ces murs qui sont en train d'enfermer la Castellane et la cité à l'extérieur.
On essaie d'avancer et de montrer justement le positif de la cité et pas le négatif. Parce que voilà, comme on revenait aux études des enfants, on a des avocats, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des militaires de carrière, on a un super designer qui est connu maintenant internationalement. On a pas mal de petits jeunes, justement, qui ont montré que c'est pas parce que je suis sortie de la Castellane ou du Planda ou de la Brue qu'on ne sait pas lire et écrire. Même si maman et papa sont illettrés, moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai un ami qui est avocat. Pourtant, sa mère et son père ne savent pas parler. Je suis allée au dentiste, j'arrive. Oh, bonjour tata, ça va? Ça vient à toi? Oui. Je dis, j'attends le dentiste. Mais c'est moi le dentiste. Ouais, Karim, qui habitait justement devant chez Fadena. Quand on voit ces jeunes-là, on est émerveillés, nous aussi. On se dit, waouh, super. Et j'ai lu une petite anecdote justement par rapport à la recherche d'emploi, ce que j'avais raconté à mes amis. J'ai mon fils qui était là, donc qui avait fait un CV sur son CV la Castellane, et il a été dans une boîte où il est recruté. Il m'a dit, maman, il a juste regardé le CV, hop, à la poubelle. Notre centre social, qui est très proche, donc, justement, de la cité, avait fait, justement, une recherche d'emploi pour les jeunes. Ils avaient dit, tous les jeunes qui veulent chercher un emploi viennent à cette fameuse réunion. Il y aura des patrons, il y aura des entrepreneurs, il y aura pas mal de débouchés. Le centre social leur avait dit de faire un CV, mais de ne pas marquer « Cité de la Castellane », de marquer « L'allée de la Jougarelle » ou « Place du Mérou ». J'ai poussé mon fils, donc tu viens, moi aussi, je vais être à cette fameuse réunion, on va voir comment ça se passe et tout. Donc on arrive. Et mon fils se retrouve avec la même personne. Il prend le fameux CV. Waouh, super, tu as fait de bonnes études, bon, tu as eu de très bonnes notes, c'est très bien, c'est ci, c'est ça, c'est là. Ça m'intéresse. Je vais mettre ça et on en rediscutera. Certaines personnes, dès qu'on dit la Castellane, il y a la grosse barrière. Non. Et je les invite chez moi, à passer même s'ils veulent la nuit chez moi, pour voir justement. On est des gens comme tout le monde.
Ici, du quartier nord, pour descendre juste en ville, il dit on va y aller à Marseille. Et le pauvre, il sent pas qu'il habite à Marseille. Moi, je vois, j'ai une fille, la pauvre, elle me dit, maman, quand on descend à Marseille? J'ai dit, mais attends, nous, on habite à Marseille. Elle m'a dit, non, on n'habite pas à Marseille. Nous, on habite. Ça m'a touchée, franchement. Pour y aller à Marseille, ça, c'est un voyage pour notre enfant.
Pour aller d'ici jusqu'à Bougainville, c'est 1 heure. Le métro jusqu'à Longville, puis Vieux-Port-Rodec, un quart, voilà, 20 minutes, je ne sais pas, un quart d'heure. Tu arrives là-bas. Pour rentrer ici, c'est la nuit. Il faut prendre un jour pour aller promener à Marseille, comme ils disent mais les enfants de maintenant. Voilà, pour... c'est un voyage. On fait un voyage. C'est.
Moi, je suis une vraie estakienne. Une vraie. Je suis bien le quartier.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied, ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied, ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Adieu vaches et cochons.
Adieu vaches et cochons, ferme et forêt.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Si tu veux te construire une belle villa.
Si tu veux te construire une belle villa.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
On dit que c'est un quartier mal fréquenté. C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
C'est rempli d'ouvriers et d'immigrés.
Les immigrés travaillent sur des chantiers.
Les immigrés.
ressort tout troué par le voisin.
Il ressort tout troué par le voisin.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
La 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 la.
La baguette magique, est-ce que ça vous aide à lutter contre les discriminations dont vous êtes victime ici?
Quand on parle des discriminations, c'est par rapport au stage des enfants aussi au collège. Nos enfants, ils n'arrivent jamais à trouver des stages. Ils leur demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, quelles études ils vont suivre. Un, il veut faire médecin, l'autre, il veut faire architecte, l'autre, il veut faire avocat. Mais il n'y a personne qui les prend en stage. Les petits se retrouvent à faire les stages, tous au centre social de la Castellane. À l'accueil, et c'est de là qu'on leur met l'obstacle pour continuer leurs études. Si on ne lui laisse pas cette chance, c'est là qu'on le déprime les petits. Moi, je l'ai vu par rapport à mon fils, aux enfants de mes copines aussi, de mes voisines. C'est la même chose. Ils veulent faire un chemin, je rêve de faire journaliste. Il n'y a personne qui les prenne. Et le petit, qu'est-ce qu'il va dire? Ça veut dire, moi, je suis des quartiers nord, je n'ai pas le droit de faire journaliste. Donc, il faut que je change. Je vais faire agent de sécurité, ou faire l'accueil, ou faire n'importe quoi, mais pas faire ces études-là. Et après, c'est là qu'on comprend pourquoi. Les petits, ils abandonnent. Après, ils tombent dans la délinquance. Et c'est rare. Dieu merci, aujourd'hui, nos enfants, la plupart des enfants, ils continuent. Pendant qu'on voit le fils de Souad, même avec tous les obstacles qu'il y a à la cité, aujourd'hui, elle a fait médecine. Fadila, sa fille, pareil, elle est en train de faire psychologie. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne lâche pas. Parce qu'on ne veut pas qu'ils abandonnent. On ne veut pas que parce qu'ils sont de quartier nord, ils sont de la cité, qu'on les juge comme ça, qu'on leur casse, qu'on ne leur donne pas l'accès au stage, l'accès à faire des études au transport pour aller au centre-ville, faire leur formation, faire leur stage ou faire leurs études. Et ils les bloquent avec ça pour qu'ils restent dedans la cité. Et dedans la cité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a rien du tout. Donc, ils vont faire quoi? C'est normal qu'ils tombent dans des délinquances. Après, on les juge. On fait tout pour les enfermer dans la cité. Chez nous, à 8h, il n'y a plus de bus. Et comment je fais pour rentrer de centre-ville jusqu'ici? Les petits qui sont en train de faire la fac, aujourd'hui, les petits galèrent. Son fils, soit des filles médecine en centre-ville, il n'y a pas de transport. Sa fille, au lycée, au centre-ville, elle n'arrive pas à revenir à la maison. Donc, elle et son mari, ils ne peuvent pas travailler. Ils sont là à surveiller les enfants parce qu'ils ont peur quand ils les ramènent de l'école, ils ont peur pour eux. Fadila, pareil, elle galère à y aller récupérer sa fille à la fac de Aix. Il faut y aller puis la chercher tous les jours parce qu'il n'y a pas de bus. Et ça, ça bloque. Il y a des familles qui arrivent encore aujourd'hui à combattre, mais il y en a qui lâchent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Déjà, la voiture allait récupérer les enfants, soit au métro Jess, ou aller chercher à Aix, car il n'y a plus de bus. Parce que nous, c'est fermé. Si une cité que à 8h de soir, tout est fermé. Pendant l'été, nos enfants, ils n'ont pas le droit d'aller sortir de quartier, aller au cinéma, aller à la plage. Pourtant, la plage, elle est juste à côté à l'Estac, mais il n'y a pas de bus. Donc, nos enfants, à 8h de soir, pendant l'été, ils sont enfermés dans la cité. Et dans la cité, il n'y a rien du tout. Les personnages, ils sont enfermés dans la maison. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire à 8h de soir, à plus de 40 degrés, ils ne vont pas rester à la maison. Les appartements, ils sont petits. Par exemple, une famille nombreuse, comme Fadila, elle a 6 enfants, ils sont enfermés dans un T4 avec le Covid. Après, ils nous jugent, ils nous disent pourquoi les enfants, ils sont comme ça. C'est les parents qui ne font pas leur travail, ils ne sont pas éduqués. Mais vous faites tout pour qu'on abandonne, qu'on tombe dans la dépression. Si ils ouvrent, comme ils font dans les quartiers sud, qu'ils ouvrent un petit peu les portes et un peu plus de transport, on ne demande pas de nous faire le paradis dans la cité. C'est juste de donner un peu plus d'accès à y aller au centre-ville. Laisser nos enfants, ne pas les juger. J'ai connu des mamans que leurs enfants, ils ont des très bonnes moyennes. Ils pleurent parce que le prof d'orientation, il lui dit « Non, mais tu ne pourras pas faire le lycée général, ça va être trop dur pour toi. Il faut faire le lycée professionnel. » Parce qu'ils savent que demain, il va faire gardien ou agent de sécurité. Professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner, il va lâcher rien pour l'idée qu'il va dire « Je ne peux pas y aller en général, ça veut dire que je ne suis pas capable. » C'est ça, on les casse, on leur ferme. On construit des murs autour de nous. Après, pour ne pas bouger, pour ne pas sortir, pour ne pas voir un peu l'extérieur, après, ils nous jugent.
Et est-ce que vous arrivez à imaginer des moyens pour lutter contre ça?
Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas lâcher. Et il faut toujours dire que je m'impose, j'existe, il faut que je prenne mon droit. On est tous des citoyens, même si on n'a pas tous de la nationalité française, mais aujourd'hui, on vit ici, on a un droit comme tout le monde. Nos enfants, ils ont droit, à, comme tout le monde, ils sont nés ici, ils ont droit, eux, ils ne vont pas faire des grandes études. Ils n'ont pas le transport le soir, par exemple, aller au centre-ville, balader jusqu'à minuit, 1h du matin, revenir. Pourquoi ils n'ont pas droit à ça? Donc aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. Moi, c'est la seule solution qu'il y a. Et on fait passer le message avec le journal, avec la radio, avec les rencontres qu'on fait. À chaque fois, on parle de même chose.
Même moi, j'ai mon diplôme. J'aimerais travailler hors la Castellane. Et comme il n'y a pas le bus, j'ai fait un remplacement à Castellane d'Anville. Et il faut que je sorte à 6h le matin et je reviens à 20h le soir. J'ai fait 2 mois et j'ai arrêté. Et maintenant, je travaille ici au centre social à la Castellane. Mais j'aimerais sortir, voir autre chose, changer les idées, voir d'autres gens. Mais on est coincé à cause de transport. Voilà.
My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh, my tired feet, my tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. Oh, well, here I've swam before. And soon I came, oh, so soon I came. Soon I came, oh, so soon I came. Silent place of choir voices. In Chelsea's Deo. Deo.
Je veux bien qu'on dise un mot sur la rénovation urbaine.
Quoi? Ça a commencé et ça n'a pas terminé. Ça nous a vendu du rêve, il va voir ci, il va voir ça. Et depuis, plus rien.
Tu sais, quand quelqu'un te donne le miel, il te dit goûte, après je te le donne. Eh bien, nous, ils sont finis goûter, après ils sont tirés, le truc. On n'a rien compris, on parle avec eux, on dit « on est où ?» Pour ce, vous êtes en train de dire « on va faire, on va faire, on va faire », vous n'avez rien fait, vous avez détruit un bâtiment là, et un tour là, on voit que les rats, ils sont partout, ça dégrade en plus, et ils sont construire des rêves dans les ciels, mais on n'a rien vu.
On nous a vendu du vent, quoi, en fait. Et comme pour le jardin de la Joucarelle, oui, on va faire ci, on va faire ça. On a débloqué 1 million d'euros. Pour 1 million d'euros, mettre 4 oliviers, 2 palmiers, c'est pas 1 million d'euros. Arrêtez de nous prendre pour... Et après, quand on voit que certains élus se font la piscine chez eux, posez-vous la question.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les habitants, il faut oublier confiance. Quand il y a des réunions comme ça qui se posent, il y a des habitants, ils ne sortent pas, ils ne viennent pas. Ils savent que c'est juste des paroles comme ça, qu'à la fin, ils vont faire ce qu'ils veulent, eux. Ils vont appliquer ce qu'ils ont fait, ils ont préparé des projets à eux, ce qui les arrange à eux-mêmes. Ils ont commencé, c'était avec la place de la Tartane. C'était une grande place que tous les habitants utilisaient pour faire des petites fêtes pendant l'été, la fête de la musique, la fête de quartier. Et les petits jouaient là-bas avec les trottinettes le soir jusqu'à 1h du matin pendant l'été parce qu'ils ne peuvent pas y aller ailleurs. Et quand ils sont venus pour faire des réunions avec des associations comme l'association Inchita qui était venue faire des ateliers pour expliquer aux habitants leurs souhaits et tout pour la place de la Tartane, avec Souad, Fadila, avec tout le monde, là, les filles, on restait jusqu'à, tu te rappelles, jusqu'à 8h30, 9h de soir. On faisait les réunions avec eux parce qu'on croyait que c'était vrai. Qui vont améliorer la cité. Ils enlèvent cette place de la Tartane, ils vont nous faire un jardin de rêve. On croyait qu'ils vont placer Disneyland là-bas. Et finalement, ils nous ont dit, oui, vous nous faites des dessins de ce que vous rêvez que ça soit cette place. On était à fond. On faisait des dessins avec nos enfants. On rêve que ça soit comme ça, des bancs pour les personnes âgées, parce qu'il n'y a pas de bancs où vont s'asseoir les personnes âgées. Les personnes en situation d'handicap, quand ils marchent, ils veulent se reposer, il n'y a pas de bancs. Et finalement, ils ont pris ces dessins, ils les ont pris avec eux. Le projet, il est fini. Ils ont cassé. On attendait pendant 6 ans ou 7 ans. À la fin, aujourd'hui, il faut y aller voir. Il n'y a rien du tout. Il y a 2 bancs en bois. Les voitures, il n'y a pas où stationner. Ils sont rentrés dedans. Ils ont fait un parking. Et on ne peut même pas marcher là-bas. Ils ont cassé. C'était plat, c'était carrelé. Ils l'ont enlevé. Quelqu'un qui est avec la canne, comme Taos, par exemple, elle ne pourra pas marcher là-bas. Elle va tomber. Donc, elle est obligée de faire le tour. On a fait de belles choses à la tartane. C'est là-bas que ça se passait, les belles choses. Nous, quand ils ont dit on va rénover, on croyait que ça va faire mieux que ça. Donc, on était contents. On a dit tant mieux. C'est pas grave, on va passer un an, deux ans avec les travaux, trois ans maximum. Et finalement, ils n'ont pas encore fini la tartane. Et ils ont passé de là, ils sont venus à la tour. Et la tour, elle gêne à la Castellane. Et la tour, on va faire un projet de ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils ont fait des dégâts. Des familles, ils ont eu de l'asthme. Parce que quand ça cassait, ça fait un peu le bruit, je ne vous dis pas. Et quand ils l'ont cassé, on s'attendait à avoir quelque chose de merveille. Il faut aller voir, il y a une bosse. Ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et il y a beaucoup de petits qui tombent là-bas. Il y a des petits qui jetaient des chariots qui tombaient sur la route. Le projet, là, il est bloqué. Ni l'avance, ni le recul. Parce qu'ils ont cassé, vous imaginez, 91 appartements. Ils ont fait repartir tout le monde un peu de partout sans leur demander leurs avis ou rien. Ils sont vraiment catastrophiques. Moi, je suis partie de la tour aussi pour faire une bosse. Et voilà. Et le projet, il est là. Et quand on fait des réunions, on parle avec eux, ils disent oui, mais c'est un projet qui va être dans 30, 40 ans. Mais qui paye? C'est nous qui paye. C'est les habitants qui ont payé. Et pourquoi un projet de 30, 40 ans? Et si vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de moyens pour casser ou pour faire plus beau que ça, il ne fallait pas faire ça. Vu la situation aujourd'hui, ce n'était pas pour le bien-être des habitants. Là, la cité, elle est en train de dégrader de pire en pire.
C'était pour quelle raison vous pensez qu'ils ont détruit la
tour? Moi, je ne sais pas, c'est politique ou je ne sais pas, c'est pas normal. Si on veut brûler une ville, la tuer à petit feu, c'est de l'enfermer à l'enlumer comme une bouée, comme ça, fermée. Il n'y a pas d'accès au transport, il n'y a pas accès à la santé, il y a des appartements en dégradation, il n'y a pas de travail. Donc on est en train de les tuer à petit feu. Ça fait 20 ans que je suis à la cité. Moi, je vois que ça empire de pire en pire. Je ne vois rien de bien qui arrive. J'avais un appartement magnifique, j'ai tout refait. J'avais la vue, j'avais tout, la hauteur. Et il marcelait, marcelait, marcelait. Il faut partir, il faut partir, il faut partir. Moi, je dis non, 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 donnez-moi un appartement comme celui-là. Il me dit, mais vous n'êtes pas d'accord, monsieur, il est d'accord de partir, vous n'êtes pas d'accord. Je dis, parce que je suis liée chez moi, j'ai rien demandé. Allez-y reloger les familles qui vous demandent de partir de la cité. Vous ne leur donnez pas d'appartement. Moi, que je suis tranquille, j'ai bien, j'ai rien demandé, vous marcelez. Elle me dit, non, mais vous n'avez pas le choix. En vérité, ce n'est pas ma maison. Je paye le loyer, mais ce n'est pas ma maison. Et quand je lui ai donné l'adresse, une fois, je lui ai amené, je suis partie au bureau de relogement, je lui ai amené l'adresse, je lui ai dit, elle est là, l'adresse. Vous m'avez dit de choisir, et bien, je vous donne l'adresse. Elle regarde sur Internet, elle me dit, non, mais c'est impossible de vous donner ici. J'ai dit, je ne vous ai pas donné le centre-ville ou je ne sais pas où, je vous ai donné le stack, c'est à côté. Elle me dit, non, non, mais là, non, c'est impossible. Il dit, je vais vous donner où? Elle me dit, je vous proposais un appartement à Bernex, vous ne voulez pas. Je vous ai reproposé à la Jougarelle, vous ne voulez pas. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux rester chez moi. Si vous ne me donnez pas mieux, je reste chez moi. Ils construisent des résidences catastrophiques, à la vite-vite. Ils ont fait le Cœur Fabrette, c'est une résidence qu'ils ont soi-disant construite pour reloger les personnes et tout. Une résidence qui s'est faite en deux ans. Ce n'est pas un endroit où habiter. Il y a l'autoroute à côté, mais c'est les bouchons. On ne peut pas arriver à la maison, il faut marcher. Quand je monte à Saint-Antoine, je suis obligée de marcher, je ne peux pas attendre le bus. Si tout le temps, elle se bloque l'autoroute. Les personnes âgées sont vraiment dégoûtées. Au début, ils nous ont dit, on vous reloge et vous gardez le même loyer. On était contents, c'est vrai, on va garder le même loyer et tout. Et d'un coup, ils commencent. Vous payez l'eau froide tout seul, vous payez la chaudière toute seule. On n'arrive pas à payer. Et si je pars d'un HLM pour changer à un HLM plus catastrophique que ça et payer double, c'est pas la peine, je reste à la cité. Ce problème-là, c'est pour tous les résidents de 91 familles qui sont partis de la tour et ceux qui sont partis de la tartane et qui vont partir de la mosquée, devant la mosquée, qui vont refaire aussi l'esquinade.
Moi aussi, elle va le casser, le bâtiment.
Là où vous habitez?
Ouais.
Et vous allez aller où alors?
Ça dépend. Peut-être à l'Algérie. Peut-être à l'Algérie, je ne sais pas. D'à peu près 50 ans. 50 ans, il n'y a plus de bâtiments sur la Castellane. Rien qu'il va le faire comme plan d'en haut. Deux étages, trois étages, c'est tout. Ouais, il n'y a pas de l'ascenseur, il n'y a pas rien du tout. Quand j'ai coincé par les papiers, c'est Centre qui m'a le fait. Mais maintenant, Centre, il va partir. Où on va y aller maintenant? Moi, il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de la famille, il n'y a pas rien du tout. Où on va y aller?
On est toujours ensemble.
Ouais.
Quand il y a quelque chose, tu nous appelles. Quand tu m'appelles, quand je vais te faire tes courses et tout, c'est pareil.
Un jour, tu es là, un jour, je ne sais pas où tu vas y aller.
Voilà, tu ne sais pas où tu vas y aller.
Ouais.
Maintenant, et je sais.
On contacte ensemble et on l'aide beaucoup. On l'aide et voilà.
Fadela touche. Oui, c'est elle qui m'a l'idée. Ah oui, mais maintenant, elle est partie jusqu'à la Fabresse. Moi, je restais celui-ci.
Là, la Castellane.
Il y a toujours
là, la
Castellane.
On
est là.
On laisse pas.
On t'appelle tout le temps.
Parce qu'en fait, aussi, c'est ça qui s'est passé avec la démolition des bâtiments.
Ouais.
C'est aussi toutes les solidarités qui, du coup, se détricotent. Quoi. Ouais. Vous, par exemple, tous les gens avec qui vous avez vécu, bah, finalement, ça y est, vous ne les voyez plus.
La plupart sont partis au Médène Méditerranée. C'est un bâtiment qu'ils ont fait à Désiré Claré, à côté de Joliette. Et la plupart, j'ai resté en contact avec eux. Parlais au téléphone, on disait toujours, c'est plus ce qu'on vivait à la tour. C'était 91 appartements, on était comme une grande famille. Chacun rentre chez l'autre. On était solidaires. Quand il y avait un décès, on était tous ensemble. Il y a une fête, on était tous ensemble. On partageait tout. C'est vrai que ça a fait un peu... la moitié, elle est partie là. L'autre, elle est partie là. Ils ont tout fait pour nous casser quand même. Mais nous, on reste toujours en contact. On garde ce lien, on ne le lâche pas. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif, qu'on va faire cette association pour rester toujours soudés. Même si on n'est pas tout le temps ici. Avant, on était chaque vendredi, chaque lundi ici. Aujourd'hui, non, à cause de Covid et tout. Mais on est toujours en contact. On est toujours, on a toujours des nouvelles de chacun à la nouvelle de l'autre. Alors moi, je suis là tous les jours. Alors là, moi j'habite là.
Le problème de projet de transport est dans notre baguette.
Alors du coup, pourquoi vous avez décidé de vous monter en association, vous avez décidé de créer une association?
On était un groupe encadré par 3-2-1, une association de 3-2-1.
Quand on n'a pas de statut, on n'a pas d'association, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses. On était toujours derrière une association à faire des choses, mais toujours le mérite est allé à l'autre association et nous, on était juste des
petites mains qui préparent tout dans les coulisses. Mais on n'est pas vu par le public. Et là, maintenant, on veut être vu par le public, dire c'est nous la baguette magique. C'est nous qui avons cousu la super robe et on veut maintenant la montrer au public et dire c'est nos petites mains.
On a décidé de faire une association pour faire plus d'actions librement.
Là, on est en train de justement faire des réunions et pour faire les statuts, chercher le nom. Et on est presque à l'entrée.
Ça y est, ouais.
À l'entrée là, de l'association.
Vous avez bientôt déposé les statuts.
Bientôt, on va rentrer.
On aime bien le journal, mais nous, maintenant, on est libre de choisir qu'est-ce qu'on veut.
On est autonome, donc on continue à faire des actions. Par exemple, la Chafia, elle continue toujours à faire des repas et des maraudes. Elle se débrouille toute seule. Elle n'attendait pas d'avoir un financement. Elle n'a aucun financement parce qu'elle n'a pas de statut. Donc, c'est des dons qu'elle ramassait comme ça chez des gens. Mais des fois, quand on n'a pas de statut, on a un peu de difficulté à aller demander des dons chez des gens. Et on a un petit financement, ça serait mieux. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent aujourd'hui, tout le monde nous connaît, donc tout le monde, quand il y a un souci, par exemple, par rapport à des papiers, régularisation, des problèmes de personnes qui ont des papiers, mais qu'on leur coupe tout. Une dame qui a eu des problèmes avec ses enfants, elle nous a demandé l'aide aussi à nous. Les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer, qui sont malades, toujours on aide. Donc on est là à aider tout le monde. Et si on a un petit financement, ça nous facilite. Parce que par exemple, il n'y a que Chafia et Fadila qui ont la voiture. Donc elles ont besoin de gasoil, ça coûte cher. Aller au centre-ville ou aller chez plusieurs personnes ramasser des dons, quand même, ça demande beaucoup de moyens.
Bien beau d'aider à faire les papiers, mais il faut les feuilles blanches, il faut des stylos, il faut l'ordinateur, il faut... C'est dans nos compétences, d'accord, mais pas dans nos moyens.
On aide aussi les personnes âgées qui sont à l'abandon un petit peu. Quand on allait leur amener des colis alimentaires, ils étaient étonnés. Ils étaient quelqu'un qui venait leur taper à la porte, leur donner quelque chose comme ça. Ils nous demandaient quand vous revenez, c'est vrai, vous allez revenir et tout. Ça a fait quelque chose de... On aimerait bien que ça continue. Et il y a des personnes aussi qui sont papiers, qui passent des périodes très très difficiles, qui sont venus se soigner ici, ils se retrouvent sans rien du tout. Ces personnes-là aussi, ils nous appellent, ils ont besoin de nous. Mais des fois, on arrive, des fois, on n'arrive pas. Des mamans qui viennent d'accoucher, qui ont besoin du lait pour bébé, des couches et tout. Des fois, on arrive à les aider.
Pendant le confinement, il y avait tout ensemble, on cuisinait avec tout ce qu'on ramassait. On n'avait pas de financement. Il n'y a que nous, on ramassait voilà, de nous-mêmes. On faisait des repas seuls avec une association SABIL, Brahim. Et c'est lui qui a pris les repas et les amenait au sans-abri. On a aidé à faire une kermesse à l'école. Les enfants, ils voulaient faire une kermesse. Et les profs, ils n'ont pas de moyens pour financer la kermesse. C'est nous qui avons fait des repas. Avec ce qu'on a ramassé avec le repas, on leur a donné, ils ont fait la kermesse. Pour que ça continue, il faut qu'on crée cette association pour que ça puisse avoir un petit peu de subvention et on ne dit pas non.
Ah oui, et du coup aussi pour avoir un local, non?
Un local, on aimerait bien avoir une cuisine qu'on l'équipe pour avoir des grosses, par exemple des grosses marmites et tout. Ici, on ne peut pas les mettre.
Les projets que vous avez envie de faire avec l'association,
dans
c'est quoi?
L'association, on a le projet d'accompagnement pour les personnes âgées. Ouais. Et qui n'arrivent pas à se déplacer, qui n'arrivent pas à faire leurs papiers, qui n'arrivent pas à faire leurs courses et tout. Et il y a une association déjà de personnes âgées qui est prête à travailler avec nous. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, dès que vous aurez votre statut et tout, vous aurez l'association. Il y a beaucoup de papy mamie qui n'arrivent pas à se déplacer, à faire des courses, qui aller au docteur ou aller récupérer leurs médicaments, par exemple aller faire leurs papiers, les accompagner même pour faire un tour, par exemple, promener un petit peu parce qu'ils sont seuls. Elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Hayat, elle voulait toujours les balades et tout.
Faire visiter tous les alentours, justement, comme on disait, les quartiers nord, de montrer les stacks, Saint-Henri, la Castellane, Plandau, le Pen Mirabeau, tout le secteur.
Moi, je vois que les enfants, c'est la future de...
L'avenir.
Voilà, c'est l'avenir. C'est pour ça qu'il faut baser sur les enfants. Comme moi, c'est qu'il n'est sur elle. On va faire des activités avec les enfants.
Moi, particulièrement, c'est les écoles. Avancer vers les écoles, faire ce qu'on a déjà fait avec Francesca, continuer le théâtre qu'on faisait déjà parce que ça leur plaisait. Ils étaient bien contents. On leur faisait aussi toucher des produits naturels. On leur faisait des dessins comme de la pâte rave. Tu te rappelles?
Ils étaient très contents, les enfants, même leurs parents. Oui, mais on ne sait pas pourquoi c'est s'arrêté. S'arrêter comme ça.
Nous, en fait, on était écartés. Écartés de ces activités-là. Quand on voyait les filles de 3-2-1 sortir du primaire, on a fait ci, on a fait ça. Mais pourquoi on ne nous a pas appelés? Pourquoi nous, on est pas dedans? On se posait la question. Mais en fait, on n'a jamais eu de réponse. Hein.
C'est vrai, il y a un moment qu'on fait les gens à l'école. Tu te rappelles le petit qui me trouve devoir, il me dit, tata, pourquoi vous venez qu'une seule fois par semaine? Pourquoi vous venez pas tous les jours? Ils étaient très contents. Le moment qu'on rentre, nous, le moment de la récré, on fait des jeux avec eux. J'ai pris des chansons de mon enfance. Je les fais répéter, ils répètent, ils sont contents. Après, on fait les boîtes de conserve. Comme une pyramide. Oui, après, on le touche et l'autre, il court derrière les autres et l'autre, il essaie de faire la pyramide. C'est qui qu'elle touche le premier? Ça, je l'ai trouvé le petit jeu d'or avec. Mais après, tout ça, c'est arrêté pour nous. Hein.
Et ces activités-là, elles avaient lieu sur le temps scolaire?
Oui, c'est le moment de la récré.
Ah, c'était au moment de la récré.
Et aussi le temps de cantine, entre midi, quand tu finissais de manger, et une heure et demie. Hein. Au collège, on mangeait avec eux à la cantine pour goûter un petit peu qu'est-ce qu'ils mangent nos enfants.
Nos histoires, c'est qu'en général, nos parents, ils ont toujours été exclus
c'est
de
ça,
l'école.
C'est ça.
Que du coup,
franchement, moi, ça, quand je suis rentrée dans les écoles, franchement, ça me tenait au cœur. Ah oui, je faisais montrer à mes enfants que regardez votre maman. Bon, ils n'étaient pas contents quand même, hein, parce que pour nous voir, hein, qu'est-ce que tu fais là, toi, encore? Allez, dis que tu nous suis même dans l'école. Eh oui. Oui, ils sont fiers, franchement, oui, ils sont fiers, hein, parce que, ils le disent pas, mais je sais qu'ils sont fiers. Et moi, je suis fière de ce que j'ai fait. D'abord moi, après eux. Hein.
Moi, j'étais fière, hein, parce que j'ai montré à nos enfants qu'on était capables, qu'ils ne devaient pas être honte de nous, parce que la plupart n'étaient pas nés ici, on n'a pas fait l'école ici. Et donc, ils tremblaient quand même un petit peu, les enfants. Mais quand ils nous ont vus qu'on tenait quand même, on était respectables, les profs nous respectaient, nous écoutaient. On arrivait à faire des ateliers avec les enfants et les profs. Donc, ils étaient fiers de nous. Moi, j'aimerais bien qu'on continue à faire le collège aussi, parce que je sens que c'est coupé le lien entre les parents et les profs. Depuis un petit peu avant le Covid, mais ça a empiré avec le Covid.
Les parents, ils n'ont plus de nouvelles. Beaucoup de mamans qui me parlaient de leurs enfants, elles me disent qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans le collège. On n'a pas le droit de rentrer. C'est juste avec le cahier de liaison où on met un mot. Donc, il n'y a plus de communication. Donc, on aimerait bien recoudre le lien qui est coupé entre les parents et les profs. C'est pour ça qu'on va faire plein d'activités avec le collège.
Et alors moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, vous parlez jamais de vous rémunérer, vous.
Moi, personnellement, ce n'est pas mon but. C'est continuer à faire nos actions. Et après, plus tard, si on peut créer des emplois pour les jeunes, je dis pas nous, on n'a pas besoin. Ça, c'est notre but plus tard.
Plus tard, quand on sera un petit peu plus vieille. Hein.
Ah, on aura plus d'expérience.
Ça va réussir.
Ça
donnera
plus de
temps.
Voilà.
On fait un cagnotte, nous, le groupe, voilà, notre association. Après, quelqu'un qui de nous, qu'elle a, par exemple, une difficulté, un malade, pour voyager, elle n'arrive pas.
Même si après, bon, on trouve qu'il n'y a personne qui en a besoin de cet argent-là, on se fait un petit resto. Un bel restaurant, un beau restaurant, ou une belle sortie, ouais, un camping, même un camping.
Un week-end.
Hein. Un week-end, ouais.
Tribus urbaines, sur beat ou dans le cœur, à l'origine comme une griotte, ma voix agit pour le bien, même si les nous écœurent. De vérité folle en récit en tout genre. Je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, bah y'a tout qui change. J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous. Mais gros, le temps que tu t'en rendes compte, c'est déjà le point de non-retour. J'ai pas de secret pour ma plume, tout un tas pour les êtres humains. Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien. Regarde-nous unifier les éléments depuis nos hémisphères, relève l'élégance. Derrière un message clair, il faut que tu partages tes connaissances. Que ceux qui t'entourent fassent même connaissance. Coûte que coûte, tu dois prendre la route, ton intuition t'indiquera le sens. Force, seul est celui qui a perdu l'usage de sa langue. La parole est sacrée quand t'ouvres ta bouche et on fait ça décemment. Quel rôle tu penses endosser dans ce cas, y'a un tas de dossiers. Étudie intensément, échange ou péris
dans le silence. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire.
Quand la historia de mis cicatrices.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique. Autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Raconte mon histoire.
La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Cuento la historia de mis cicatrices, porque en ellas se encuentran lo aprendido. Algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna, o las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar, buscaré la libertad entre mis versos. Alrededor del fuego trenzaré memorias con las que soy y las que fui, lo que siento ahora. Estaré quitándole minutos a las horas, recuperando el canto que desde mi pecho aflora.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire.
Cuento la historia de mis cicatrices.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique. Autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire.
La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría.
A chaque étape, faut faire le taf et rester brave, surtout garnir la table. Personne n'y échappe, j'offre avec Rebecca Lane une solution décalée, chantier d'amour où chantent les armes.
Abre tu corazón a las palabras verdaderas, a las que hablan al alma y recuerda. La canción de la lluvia sobre la selva, el fluir del río hacia aguas.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire.
Cuento la historia de mis cicatrices.
Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique. Autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire.
La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría.
Rebecca Lane y Categoric. Ah.
une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. C'était un entretien avec Shafia, Taous, Hayat, Souad, Souraya, Fadela, Fatia pour le collectif des femmes de la Castellane. Prise de son, Fatima Sissani. Montage, Fatima Sissani et Rinka. Mixage, Rinka.